Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Il y a des gens probablement à la maison qui m'écoutent, donc bonjour aussi. C'est toujours un plaisir donc, pour moi de revenir à Sainte-Marie, revoir plusieurs frères que je connais et sœurs que je connais. Donc, c'est un plaisir. Puis, c'est un plaisir aussi de partager ce qui se passe un peu au camp et de me permettre de vous remercier encore pour votre support. Dans la prière, dans les dons. Alors, merci énormément pour le support, le soutien que vous avez envers le camp, envers notre famille. C'est apprécié et je le dis à chaque fois, mais aussi important. On est encore là, sur cette terre, avec nos besoins matériels. Donc, ce matin, je vais vous parler un peu du camp et je vais effectivement aussi... ouvrir la parole de Dieu, donc on va s'encourager ensemble dans la parole de Dieu. Je reviens donc sur l'année Camp Brochet. Je vous parle un peu du camp, nos camps, nos programmes, camps d'hiver. 2023, 2024, on a eu des camps d'hiver, des fins de semaine à partir de Noël. On avait des activités au camp, et particulièrement nos camps pour adolescents et jeunes. Vous avez des jeunes ici que peut-être que vous connaissez, de Saint-Jean-Chrysostome. Ça, c'est au 13-17 cet hiver. Avec la baignade de l'ours polaire, toujours des moments un peu de plaisir loufoque. Mais au-delà de ça, c'est de l'enseignement. C'est des prédicateurs qui viennent parler aux jeunes, qui rappellent le message de l'Évangile. Donc, c'était dit dans la prière, nous avons un message précieux à communiquer aux jeunes et aux adultes, au travers des programmes pour les adultes. Le merveilleux message de l'Évangile, la grâce de Dieu, et on le fait durant l'été, on le fait aussi durant l'hiver. C'est aussi l'occasion de faire des activités avec les autres églises, Cabane à sucre, merci pour le sirop, Nelson. Et ça nous permet donc de faire des activités avec les églises de la région. L'année passée, on était plus d'une centaine au camp là, pour se passer du bon temps ensemble fraternel. Le camp, on parle tout le temps de nos activités de programme. C'est aussi une énorme équipe qui se mobilise pour les travaux, l'entretien, des gars de maintenance qu'on appelle, qui sont des hommes et des femmes qui travaillent de leurs mains, qui servent le Seigneur avec leurs mains. Cet automne, on a décidé de refaire l'extérieur de notre bâtiment principal. C'était un bâtiment qui était dont c'était défraîchi pas mal, là, surtout sur des endroits. Donc, on est sur ce projet-là. Ceux qui connaissent le camp aussi, une photo de notre corridor des chambres en haut. On est en train de faire une nouvelle isolation pour améliorer le confort de nos cuisinières. On a des dames et des hommes, mais beaucoup de dames qui viennent travailler au camp l'été. Et avec le temps, on vieillit un peu et puis c'est plus difficile de dormir. Et on a une équipe qui est là, précieuse, on veut prendre soin d'elle. Donc, on améliore notre insonorisation. J'espère que ça va être profitable. Le camp Brochet, c'est énorme comme mobilisation de ressources humaines, de gens qui viennent s'impliquer. 153 personnes l'été passé sont venues passer au moins une semaine. 153 personnes différentes sont venues au camp. Et de ce groupe, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, évidemment, qui sont là. Et on voit depuis plusieurs années un groupe de jeunes, en tout cas au camp, qui sont mobilisés, qui sont intentionnels dans leur relation avec Dieu, qui veulent servir Dieu. Et qu'ils le font avec leur faiblesse de jeunes, mais qu'ils le font quand même avec beaucoup d'intention. Puis on a une belle équipe. Ça, c'est tous des staffs maintenant qui font la musique. On a d'excellents musiciens. On a des jeunes qui veulent servir Dieu. Ça, c'est l'équipe des filles qui ont décidé de repeindre nos tréteaux. Vous avez l'équipe du 13-17. Les gars, les Ferland, vous étiez au 13-17, l'été passé, vous? Ah, c'est ça. Donc, ça, c'est l'équipe du 13-17, les moniteurs, les directeurs qui étaient là. Donc, on a un gros, gros programme pour les jeunes avec des animateurs. Ça, c'est nouveau depuis l'année passée. On a des gens qui sont dédiés à l'animation durant nos programmes pour amuser les enfants. Mais c'est aussi des programmes pour les adultes. Alors, un programme qui touche les gens plus âgés. Mais surtout, il n'y a pas d'enfants. Alors, on a nos camps de famille, mais on a un camp d'adultes aussi. Et ça, c'est dans notre magnifique gazebo. André a travaillé là-dessus avec, j'ai un blanc de mémoire, Daniel. Hey. faut que je me rappelle des noms. André et Daniel ont travaillé sur ce projet-là. Alors ça, c'est vraiment un bel équipement qui nous sert. Fait saillant aussi de l'été passé, c'est nos bracelets de fort qu'on appelle, un petit bracelet qui rappelle l'Évangile, tout simplement. On en a donné à chaque enfant qui sont venus au camp l'été dernier. Ça avait été une forme de commandite qu'on avait eue d'une organisation en Suisse. Et puis, on a donné donc ce bracelet-là qui rappelle l'Évangile. Les jeunes sont partis avec ça. Tout le monde est parti avec ça à la maison. Et cette année, on en a encore, donc on va pouvoir encore en donner cette année. Donc, c'est un petit moyen qui a été très efficace pour un rappel, justement, du message. Donc, les enfants partaient avec ça et retournaient à la maison. Autre fait saillant de l'été dernier, c'est les commentaires que nous avons eus de nos des parents qui ont envoyé leurs enfants au camp, parents chrétiens comme non-chrétiens. Vous savez, quand on travaille avec des enfants mineurs, on touche une clientèle qu'on appelle vulnérable. Donc, ceux qui connaissent, qui travaillent dans le milieu hospitalier, le milieu scolaire, vous connaissez ces mots-là. Ça demande un encadrement très particulier. Et on est rendu, ça fait partie de mon travail en particulier, puis celui de Suzanne, mon épouse, de tout encadrer ça. Et donc, les parents, ils sont très critiques, pas toujours négatifs, là, mais ils sont très attentifs à cet aspect-là, comment on prend soin de leur enfant. Et j'ai une dame qui m'a écrit, très gentille, elle dit « Merci pour le service que vous faites au camp, je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais vous réussissez à offrir par la grâce de Dieu un endroit sain et sécuritaire, divertissant et édifiant pour nos enfants. Et je vous en remercie. C'était la première expérience pour mes enfants au camp cette année et ils ont adoré, même au-delà de nos attentes. Mon plus jeune Philippe a reconnu Jésus comme son sauveur, une bénédiction. Le camp Brochet restera jamais l'endroit où il a donné sa vie à Dieu. » Et une dame aussi nous a écrit, une dame qui n'est pas chrétienne, elle nous a écrit cette gentille lettre. « Bonjour, suite au camp réalisé par notre garçon Félix, nous souhaitons faire un don au camp, donc un certain montant, et une partie de ce montant-là est pour le moniteur qui s'est occupé de son garçon. Etc. « Notre garçon a adoré votre camp, c'est un site magnifique, nous souhaitons contribuer à la continuité de votre cause, merci pour tout. » Et je répète, ce n'était pas des chrétiens. C'était des gens qui, qui étaient en relation avec, dans le milieu scolaire, avec l'école où Suzanne, mon épouse, travaillait. Et il était pas, donc, au mois de juin l'année passée, on a des classes nature. Ça, c'est des classes, des classes scolaires, des groupes scolaires qui viennent au camp Brochet au mois de juin, passer la journée avec nous. Fait que nous, on fait ça depuis quelques années, puis on le développe de plus en plus. Ça nous permet d'accueillir des groupes qui viennent profiter de nos installations. On donne l'encadrement, là, on fait l'animation. On ne parle pas de Dieu dans ce moment-là, mais on fait connaître le camp. Et ça fait que souvent les jeunes, dans ce cas-là, Félix est venu comme ça, passer une journée. Puis le soir, il a dit à son père, à ses parents, il dit « Hey, je veux aller au camp Brochet cet été. Inscrivez-moi. » Alors le papa... il m'a appelé au bureau, il m'a appelé, puis là, il dit, je veux savoir un peu comment ça se passe, tout ça, puis là, je lui parle du programme, et j'ai dit, écoute, la directrice de ce programme-là, c'est mon épouse, et ça a donné que ce gars-là, c'était un professeur qui connaissait Suzanne. Alors, je les ai mis en contact, Suzanne lui a parlé, Félix est venu au camp. Puis le commentaire du gars, c'était drôle parce qu'il dit « Ah, il dit, moi, je ne crois pas en Dieu, mais ma belle-mère va être contente qu'il aille dans un camp chrétien. » C'est une catholique. Félix est venu au camp. Passé une semaine très appréciée selon le commentaire. Mais l'histoire ne se termine pas là. En septembre, sa sœur plus vieille rentre au cégep et on lui diagnostique un cancer virulent au cerveau. Tout arrête. Traitement, on peut s'imaginer l'histoire là. Traitement à Montréal, etc. Donc, la famille, toute la vie de famille est mise sur pause. Et l'école de ce professeur-là, c'est une école que Suzanne connaît très bien, elle se mobilise pour aider. Les repas, tout ça, accorder un support à la famille. Suzanne, mon épouse, embarque dans le groupe. Donc, tout l'hiver, Suzanne a eu des contacts avec cette famille-là. Elle allait porter des repas, parler avec eux. Puis la maman de ce petit bonhomme-là est une directrice d'école aussi. Donc, c'est tout du monde que Suzanne connaît depuis longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, comme au Camp Brochet, à Chicoutimi, ça nous permet de faire ça. On a un suivi, en fin de compte, avec cette famille-là. Ça a commencé avec une classe nature, une activité où on n'a même pas parlé de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est rendu là. Félix revient au camp cet été. La petite fille est en traitement. Ça va, mais ce n'est pas facile. Alors, c'est un sujet de prière. Notre Église prie pour eux. Ces jeunes-là sont en contact avec des chrétiens maintenant. Donc, le camp Brochet a permis ça. Donc, c'est très intéressant. Quand on pense à l'Évangile, c'est plus qu'un enfant, c'est des familles qui peuvent être touchées par ce ministère-là. Je reviens donc sur l'année 2024. Qu'est-ce que nous avons encore cette année? Camp de neige, classe nature, nos camps d'été habituels et le projet de la chapelle qui se poursuit. J'en ai parlé à chaque année. Je me permets d'en parler encore cette année. On est rendu où dans ce projet? Eh bien, on est rendu, c'est le rappel, en fin de compte, du besoin. La chapelle actuelle est trop petite. Notre temps spirituel est important. C'est le cœur de notre mission. Et on a besoin aussi d'un équipement qui va être utilisable l'hiver. Notre bâtiment actuel, c'est un bâtiment qui n'est même pas chauffé, qui a plus de 50 ans, qui n'est pas tout fini. Il y a une partie, parce que quand on voit les photos, c'est beau, hein? Mais il y a toute une section qui est complètement finie, qui a le plancher défoncé. La partie bricolage, là, ceux qui connaissent ça. Donc, ça, c'est scrap. Ce qui reste, c'est utilisable, mais beaucoup trop petit pour nos besoins. Donc, on est en processus de refaire un nouveau bâtiment. Et ce projet-là, bien, il va commencer à l'automne. Alors, ça fait 3 ans que je viens ici, puis je vous parle de ce projet-là. On est rendu à débâtir la vieille et on commence le projet en septembre de la nouvelle chapelle du Camp Brochet. C'est un projet qui va s'échelonner sur quelques années, mais pour la première phase, on met la bâtisse, on met la vieille cabane, la vieille chapelle à terre, et on construit la nouvelle, c'est-à-dire qu'on fait les fondations, on met la coquille, fenestration, utilisable à l'été 2025. On aura notre bâtiment capable d'accueillir nos campeurs, et la finition intérieure, finition extérieure va suivre en 2025, 2026. Donc, c'est un projet qui est très dispendieux. L'année passée, on parlait de plus d'un million de dollars, 1,2 million. On travaille là-dessus, on ramenait ça des… Moi, je vise plus bas que ça, je ne vous le cacherai pas. Ça travaille fort, notre contracteur est trouvé. C'est un jeune homme, il a 40 ans, là, qui nous connaît, qui travaille au camp déjà. Et il dit, ne cherchez pas de contracteur, je vais faire le projet. Je m'occupe de ce projet-là. Donc, il embarque avec nous, il nous connaît, donc il dit, je vais le faire à votre façon. Quand ce sera possible d'avoir du bénévolat, on va faire rentrer du bénévolat. Donc, les gars de Sainte-Marie qui sont bons, à un moment donné, on va avoir besoin de vous pour faire de la finition, pour faire, tu sais, mais la grosse job va être faite par des contracteurs. On lui donne ça à contrat. Ça va être fait. Dieu voulant, toujours quand même, cet automne. On a 400 000 $ dans le compte de banque. Le contracteur a dit que ça devait coûter à peu près 471 000, cette phase-là. Donc, on peut penser à 500 000. Donc, il nous manque environ 100 000 $ mais on avance dans le projet. On est confiant que ce 100 000-là, on est capable de le ramasser cette année, puis de continuer comme ça dans les prochaines étapes avec notre équipe, que ça va être plus facile là, de gérer ça. Donc, on est rendu là, commencer la construction à l'automne, avoir un bâtiment utilisable à l'été 2025 et poursuivre la finition ultérieurement. Comment contribuer? Évidemment, par la prière. On a besoin de vos prières là-dessus et évidemment en contribuant financièrement. On est toujours à la recherche d'un entrepreneur électricien. J'ai dit qu'on avait notre général. Plomberie, c'est fait. Électricien, on en a besoin. Les travaux actuellement, c'est un travail, les architectes ont fini, les ingénieurs en mécanique, ingénieurs en électricité, etc., travaillent sur le dossier. Donc, tous les plans, là, sont sont pas mal finis. Là. On est capable d'avoir des cotes, autrement dit, pour les soumissions. Et évidemment, des bénévoles avec... je vous dirais que des bénévoles, là, c'est écrit avec le certificat de la CCQ. Oui, mais même si on ne les a pas, ce n'est pas grave, parce qu'on va rentrer avec nos propres équipes après. Alors, merci pour votre soutien. Sujet de prière, je vous invite à prier pour Ariane Côté, qui va remplacer René. Vous savez que, j'en parlais l'année dernière, notre cuisinière en chef et notre responsable de la cuisine, c'est plus qu'une cuisinière en chef, c'était la responsable. René Larrivé nous quitte. J'étais encore avec eux hier soir, puis ils nous quittent tranquillement. Ils sont encore là, ils vont donner un coup de main pour débuter l'été. Ils sont dans les menus avec Ariane et puis dans la recherche du personnel aussi. Mais durant l'été, c'est Ariane Côté, une jeune femme d'environ 25-26 ans, qui est formée, qui a été utilisée à l'hôtellerie, dans l'école d'hôtellerie à Montréal. À tout ça, elle est déjà venue travailler avec nous souvent. Fait que là, elle prend en charge la cuisine cet été. Donc, priez pour elle, c'est un bon défi. Je dis tout le temps que c'est le plus gros budget. La portion du budget la plus importante au camp, c'est la nourriture. Donc, c'est important. Mais c'est au-delà du chiffre monétaire, c'est beaucoup le personnel. Dans la cuisine, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est une belle gestion, une bonne gestion. Je vous invite à prier pour le personnel qui manque. Ça va très, très bien à ce niveau-là, mais dans la cuisine, quelques moniteurs aussi, garçons, manquent durant l'été. Mais on a une belle équipe là, qui se présente à nous présentement. Je mets sur le tableau tous nos conférenciers, tous nos enseignants qui viennent cet été. Gilles Despins, François Boudreau, Annie Francis, etc. Martin Jalbert, vous avez des noms que vous connaissez là-dedans. Jean-Philippe Fréchette. Donc, une belle brochette de conférenciers, d'enseignants qui viennent dans nos différents programmes de camp cet été. Donc, je vous invite à prier pour tout ce groupe d'enseignants et tout le personnel, évidemment. On prie particulièrement aussi pour notre impact spirituel. Je dis souvent, le camp Brochet, c'est pas une colonie de vacances ordinaire, c'est pas un terrain de camping ordinaire, c'est un camp chrétien. Et notre travail, c'est de parler de Dieu, d'avoir un témoignage qui soit au-delà de nos paroles, en action, dans notre attitude, façon de parler aux gens. Donc ça, c'est super important. On a besoin de prière là-dessus, parce que c'est pas facile. On peut penser que c'est beau, tout le monde a le fun, mais quand ça fait un mois que tu es là-dedans, tu viens fatigué, la patience est moins là. Donc ça, on a besoin de prière là-dessus. Je vous invite à prier qu'on ait de la sagesse dans notre projet de construction de la chapelle. Je ne cacherai pas que c'est un projet qui est très majeur pour nous. On n'a jamais, dans les dernières années, puis même avant, je pense qu'on n'a jamais fait un projet de cette façon-là. Donc, pour nous, c'est un nouveau terrain. Donc, un chemin qu'on ne connaît pas, ou très peu. Donc, on a besoin de sagesse. J'ai une belle équipe qui m'entoure, beaucoup de gens qui sont compétents, mais quand même, il faut avancer avec sagesse. Alors, on est rendu à ouvrir la parole de Dieu, ça va? Donc, les sujets de prière sont là. Je vous invite à prier avec nous dans ces projets-là, dans ces besoins-là. Et j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu maintenant dans l'Exode au chapitre 2. Vous pouvez tourner là. Vous savez, la réflexion que j'ai pour vous ce matin, elle a débuté en moi au début de l'année 2024. 2024, c'est une année pour moi importante. Ça fait maintenant 40 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1984. Ça fait 20 ans que j'ai laissé mon emploi chez Desjardins pour prendre le ministère à temps plein, donc en 2004. On vieillit? Hein? J'ai plus qu'à... Ça fait 40 ans, donc on vieillit tout le monde. Je vous dirais que dans les derniers mois, j'ai plusieurs personnes autour de moi dans ma famille qui sont décédées. Tu sais, on pense à l'éternité, on pense à la vieillesse, on pense à la vie qui change. C'est tout dans ce mode-là que je réfléchissais à mon année 2024. On peut penser aux changements qui se passent dans nos églises. Nous, on en vit beaucoup. C'est très spécial. On peut penser dans nos milieux de travail. Quand je dis que René et Renaud, nos collaborateurs, depuis 20 ans, ne seront pas là cet été, bien, pour moi, c'est majeur, là. C'est comme si le gars avec qui tu travailles depuis 20 ans, cet été, il n'est pas là. Fait que c'est le support, c'est celui à qui je parle quand ça ne va pas bien. C'est ma référence pour un conseil. Il n'est plus là, là. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais ce n'est pas la même dynamique. C'est pas on sort, tu sais, quand on dit qu'on est dans nos pantoufles, là, on est dans une zone de confort, bien là, je sors de ma zone de confort. Donc, c'est un peu ça que j'avais en tête quand je pensais à mon année. Puis je me disais, ouais, c'est comme des moments charnières, des moments où on change. Il y a une bascule, il y a un changement dans ta vie, une bascule, on passe d'un côté à l'autre. On appelle ça des moments charnières. Puis ça, des moments charnières, on en a toutes dans nos vies. Ça arrive à tout moment de la vie. La naissance d'un enfant, la mortalité, la maladie va te frapper. Ça peut être dans le milieu professionnel, comme j'ai dit tantôt, ça peut être des changements d'emploi, des situations au niveau de vos emplois. Puis ça peut être aussi dans nos communautés, dans notre relation d'Église, dans notre vie d'Église aussi. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais regarder avec vous un moment charnière de la vie du peuple hébreu. Le moment où ils ont quitté l'Égypte pour s'en aller vers le pays qui leur était destiné. Et c'est ce moment qui est présenté dans un premier temps au chapitre 2 du livre d'Exode. Et je vous invite à tourner donc au chapitre 2, Exode, au verset 23. Alors ici, on est rendu où dans l'histoire? C'est que Moïse a quitté l'Égypte, il a tué un Égyptien, il se sauve pour sa propre vie, hein, sauver sa vie, comme on dit. Il est rendu dans un pays qui s'appelle Madian. Il est étranger là-bas. Et au verset 23, on a un retour. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. » 24, Laurence. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation où il eut compassion, dans d'autres versions. Maintenant, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, il parle ici à Moïse, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » J'arrête là. Est-ce que nous saisissons les bénédictions que Dieu a pour nous? C'est ça mon thème. Dieu veut nous bénir, mais est-ce que nous saisissons ces bénédictions qui sont pour nous? Dans notre histoire, on voit quoi? On voit que Dieu est présent. Il est informé de la situation. Hein? On voit, il y a plusieurs verbes qui nous le rappellent. Il voit, il entend, il se souvient et il a compassion. C'est un Dieu qui est actif dans l'histoire. Alors, il est informé, il est impliqué et il est déterminé à accorder ses bénédictions au peuple d'Israël. D'un côté, il est conscient de ce que le peuple vit, on le voit, il sait ce qui se passe. Mais d'un autre côté aussi, il se souvient de son engagement. Il se souvient de ses promesses qui ont été données à Abraham, puis aux descendants, Isaac, Jacob. Et par extension, on est rendu où, là, dans l'histoire d'Israël? À plus de 2 millions de personnes. Les fils de Jacob sont devenus 12 tribus, avec évalué environ à 2 millions de personnes. C'est là où on est dans l'histoire. Le peuple vit en Égypte et Dieu les connaît. Cette partie, donc, ce premier verset, cette première pensée nous rappelle que Dieu agit envers Israël par compassion. L'intervention de Dieu est motivée par son amour. La compassion, je rappelle que ce que c'est un amour, c'est un sentiment qui nous amène dans l'action. Ce n'est pas juste un feeling, ce n'est pas juste un « Ah oui, je comprends. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voici ce que je vais faire pour toi. » Le plus bel exemple, pensez au bon Samaritain, à l'histoire du bon Samaritain. Il s'est arrêté, a pris soin de la personne blessée. Il l'a pris sur sa monture, est allé la porter à l'hôtellerie, a payé pour lui. Donc, un amour qui nous amène dans l'action. Compassion, pensée à action. C'est ça que Dieu vit, c'est ça que Dieu ressent pour son peuple d'Israël. Donc, on voit que l'intervention de Dieu est motivée par sa compassion et par sa fidélité. Les deux bases sur lesquelles il s'appuie pour travailler, pour s'investir auprès de son peuple, sont l'amour et sa fidélité. Dans cette compassion, dans cette fidélité, il y a aussi par extension la bénédiction universelle envers toutes les familles de la terre. C'est dit à Abraham, et par cet amour, cette fidélité, elles se sont étendues jusqu'à nous. Est-ce qu'on s'est arrêté, nous, en tant que chrétiens, à penser, à réfléchir, à se rappeler la fidélité de Dieu et sa grâce envers nous? Est-ce que vous vous êtes arrêté sérieusement pour réfléchir à ça? Si Dieu est intentionnel dans son action comme on le voit, est-ce que moi, je suis intentionnel dans ma relation avec Dieu? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on se laisse porter le matin par « bon, ben, on va voir ce qui va se passer » ou si on se décide, si on est intentionnel, si on prend la décision de vivre une vie quotidiennement, une vie de chaque jour consacrée à Dieu, avec l'intention de faire la différence dans le monde qu'on occupe, où on est des spectateurs de ce monde, puis on le laisse aller. On constate plein de choses, vous l'avez dit ce matin durant votre culte. Les prophéties se réalisent. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. C'est quoi notre attitude par rapport à ça? C'est quoi votre attitude? Ah, bien, c'est bon pour eux autres qui aillent en enfer. Ou bien on prend la décision de faire comme Dieu. J'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leurs souffrances. Je les vois aller. Puis je vais intervenir. Est-ce qu'il l'a fait avec nous? Oui, il l'a fait avec nous. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Prenons ça comme un privilège, parce que c'est vrai que c'est par grâce, mais restons pas là. Soyons aussi des acteurs dans cette histoire et prenons à cœur les âmes perdues autour de nous. Cet premier point aussi nous montre que l'action de Dieu n'est pas due à la fidélité d'Israël, mais presque en dépit de sa fidélité. Dieu n'attend pas la fidélité d'Israël pour agir. Il n'a pas dit « Oh, je vais attendre qu'il soit assez bon, qu'il arrête de chialer pour intervenir auprès d'eux. » Au contraire, il intervient auprès de son peuple parce qu'il aime et la compassion et qu'il se rappelle de son engagement, de sa fidélité. Il n'attend pas que Israël soit bien, soit bon. Au contraire même, on pourrait dire que c'est en dépit de son état spirituel. Le peuple donc gémit, se lamente, crie, est idolâtre, mais ça n'empêche pas l'Éternel d'intervenir avec grâce auprès de son peuple. Application. C'est bien, c'est une consolation importante pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu n'attend pas notre fidélité pour agir avec grâce envers nous. Quand vous vous levez le matin, comment vous vous sentez devant Dieu? « Oh, je ne suis pas assez bon pour servir. Je ne suis pas assez bon pour servir. Je ne suis pas assez bon pour être aimé. » Savoir que Dieu est fidèle envers nous, savoir que sa grâce n'attend pas notre perfection, nous aide à affronter les tempêtes de nos vies, nous aide à considérer aussi les échecs dans la vie des autres comme dans notre vie, sous un regard différent, moins dans le jugement et plus dans la grâce. Comprenez ce que je veux dire? Quand je vois un frère qui chute, c'est quoi le réflexe que j'ai? Ah ben, c'est bon pour lui. Il y avait un camp, j'y avais dit de ne pas faire ça. Il n'aurait jamais dû se mettre les pieds dans les plats de même. S'il avait lu sa Bible, il n'aurait pas fait ça. Ou j'ai une attitude de compassion, d'amour. Parce que vous savez, ça nous arrive tous de se mettre les pieds dans les plats, de tomber, de chuter. Et cette histoire nous rappelle que Dieu n'attend pas la perfection pour agir. Ça nous donne aussi c'est un encouragement de savoir que Dieu agit avec nous, qui nous malgré nos faiblesses, oui. Puis ça nous empêche aussi d'être paralysés par nos fautes. Comprenez, quand on est dans l'erreur, quand on est dans la faiblesse, quand on est dans le manquement, dans le péché même, c'est quoi notre réflexe? On se met une petite boule, on pleure sur nous-mêmes, on s'écarte du monde, on ne voit plus les autres, on ne veut plus être en relation parce qu'on a honte. On a honte de ce qu'on est. On est paralysé par nos fautes. Mais Dieu est là. Dieu est prêt à pardonner. Dieu est là, prêt à agir. Dieu n'a pas choisi des personnes parfaites. Nous sommes tous des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Hein, il rappelle dans Marc au chapitre 2, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il a choisi, les amis, de perfectionner, si on peut dire ça, des hommes et des femmes imparfaites. Il veut quoi? Nous sanctifier, nous rendre propres à son ciel. On sait que la finalité est éternelle, mais cette marche de sanctification, elle est déjà entamée. Évidemment, ça n'excuse pas nos échecs. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut excuser nos échecs et ceux des autres, mais on ne doit pas être surpris par ceux qui tombent, ceux qui échouent aux côtés de nous, comme nous le faisons aussi. Et notre échec, comme j'ai dit aussi, ne devrait pas être une excuse pour paralyser notre vie chrétienne. Deuxième point. Donc, Dieu est présent, mais Dieu aussi veut bénir. C'est ce qu'on voit un petit peu plus au chapitre 3. Donc, Dieu veut bénir, il s'engage à délivrer son peuple. Hein, j'ai entendu, j'ai vu, je vois, j'ai compassion, mais en même temps, je vais les sortir de là. Je les amène dans un pays qui est bon, qui est vaste, qui est abondant. Et il veut la même chose pour nous. Il veut nous bénir, pardon, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales et dans nos vies d'église. Cette promesse, elle est pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin, que la promesse de Dieu, elle n'est pas juste pour Israël. Vous allez me dire, ah, Israël, c'est dans l'Ancien Testament. Non, c'est une promesse qui est réelle pour Israël. Est-ce que c'est une promesse qui était vraiment réelle pour Israël? En tout cas, si vous n'êtes pas aux nouvelles, hier, c'était pas mal ça. Hein? C'est drôlement une promesse qui est pertinente. Ce pays-là, il l'attendait, il leur a été donné il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Ce pays promis, C'est un mètre carré. C'est un terrain, là. C'est pas plus terrain que ça, là. C'est une terre. C'est pas au ciel. C'est terre à terre, terrestre. Alors, c'est vrai que nos bénédictions de Dieu, elles touchent une sphère céleste. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais cette sphère de bénédiction, elle touche tous les aspects de notre vie. Nous sommes bénis maintenant de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alors, le ciel en fait partie, mais la terre aussi en fait partie. Dieu a des bénédictions pour chacun d'entre nous, de la même façon qu'il avait des bénédictions pour Israël, comme il y a encore des bénédictions pour Israël maintenant, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour son Église, pour Sainte-Marie de Beauce. Il a des bénédictions. Donc, c'est une consolation, tantôt, je parlais de ça. C'est une erreur, pardon, que nous faisons dans lisant ces textes, souvent de trop les spiritualiser, hein? Parce qu'on dit, oh, les bénédictions que Dieu nous donne, c'est juste pour le ciel. Non, elles sont aussi pour maintenant. Une autre erreur aussi que nous faisons, c'est de croire que ces bénédictions de Dieu ne s'accompagnent que de plaisir et de félicité. Quand je parle aux jeunes, j'aime bien leur dire que la bénédiction de Dieu, puis des fois aux adultes aussi, c'est pas « Hey, ça va être le fun, ça va bien aller, ça va être, tu sais, tout va bien aller parce que Dieu me bénit. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu bénit au travers de toutes les circonstances de nos vies. Oui, il y a des bons moments, des moments de plaisir, de joie, mais il y a des moments de souffrance, il y a des moments d'épreuve. Et Dieu est quand même là. Et Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de ça. Quand je parle avec des jeunes, ça m'arrive assez souvent, ça m'arrive souvent de parler avec des jeunes d'engagement pour le service, de ministère. Puis, ils me voient y aller, puis ils disent, « Ouais, c'est pas toujours facile, le ministère. » Je dis, « Non, c'est pas toujours facile. Mais c'est ça que je veux faire. » Quelqu'un me disait, m'a cité dernièrement, John Wesley, oui, un grand prédicateur qui a dit à la fin de sa vie, « Je me suis éreinté à la tâche, mais je ne m'en suis pas lassé. » Puis il est mort dans les heures qui ont suivi. C'était fatigant, servir Dieu. C'était pas facile, c'était fatigant, mais je ne m'en suis pas lassé. Ça ne m'a pas empêché de le faire. Je ne me suis pas tanné de le faire. Comprenez? Fatigue physique, mais pas dans la tête. J'étais content de le faire. C'est une attitude que j'aimerais avoir. Maintenant, on vient de se dire, c'est le fun d'avoir les bénédictions de Dieu. Dieu veut bénir, mais comment saisir ces bénédictions-là? Prenons le dernier 5 minutes pour regarder cet aspect-là. Comment saisir les bénédictions? Je viens de vous dire qu'il faut saisir les bénédictions, là. Mais ça veut dire quoi concrètement? Très concrètement, la première chose, une attitude positive. Et puis, ce n'est pas de la psychologie, là. C'est juste de vous lever le matin pour dire, « Seigneur, je suis avec toi le matin. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? » Puis, si vous ne croyez pas à ça, quelle était l'attitude du peuple juif dans notre histoire qu'on connaît de la traversée dans le désert et la sortie d'Égypte et tout ça, c'était une attitude misérable. Ils n'arrêtaient pas de chialer. Qu'est-ce que ça a amené, ça? Tous les hommes de 20 ans et plus, les adultes, personne n'est rentré dans le pays. Ces bénédictions que Dieu voulait pour eux, il y a 2 adultes qui en ont profité, Caleb et Josué, sur des centaines de milliers. Est-ce que l'attitude est importante? Mais en que l'attitude est importante. Avoir une attitude positive, confiante en Dieu. Quand Caleb et Josué sont arrivés, je leur disais ça dernièrement, hein, quand ils sont arrivés de leur mission d'investigation en tant qu'espions, écoute, ils disent, oui, c'est pas facile, il y a des géants, mais Dieu va nous donner la victoire. C'était ça comme ça qu'ils voyaient le défi devant eux. Ils n'étaient pas inconscients face à l'ampleur de la tâche, mais ils disaient, « Hey, on y va pareil! » Attitude. Deuxièmement, volonté. Je disais tantôt, est-ce que vous êtes conscient que vous avez des bénédictions de Dieu? Bien, il faut les saisir, il faut avoir la volonté de les saisir. Je reprends encore l'exemple de Caleb, hein, même à 80 ans. Donne-moi là la montagne, je vais y aller, moi. Je vais apprendre cette montagne-là. Laisse-moi là à moi. Conviction que Dieu veut nous bénir. Détermination. Je suis engagé dans l'action. Je ne suis pas un spectateur de la vie. Je ne suis pas un spectateur de la vie chrétienne. Le souffle du Saint-Esprit souffle, mais je saisis ce souffle-là puis j'avance avec lui. Et le dernier, c'est une vision. Je prends un peu plus de temps sur cette vision. Vous connaissez le passage dans le Proverbe, chapitre 29, « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple ne connaît aucune retenue. Il est dans le désordre. » OK, c'est ça que ça veut dire. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. L'idée d'avoir une vision, d'avoir un objectif où aller, ça nous aide à saisir les bénédictions de Dieu. Ça nous aide personnellement, ça nous aide collectivement aussi. J'ai le privilège que lorsque je me suis converti, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, donc ce que je vous dis là, je ne vous dis pas de faire ça. Quand je me suis converti à 21 ans, j'avais déjà l'appel de service pour Dieu. C'était en même temps que je me suis converti, je savais que j'allais servir Dieu. Et pas longtemps après, je savais que j'allais servir Dieu à temps plein. Alors, Dieu m'a convaincu tout de suite de ça. Pour moi, l'appel du service était lié directement au salut. Pour venir au Seigneur, c'était automatique. Il fallait que je donne ma vie. Il fallait que je serve. Il fallait que c'était impossible que ce soit différent. Puis, 20 ans, 30 ans plus tard, 20 ans, j'ai quitté mon emploi. Mais c'était une suite d'événements, une suite logique, de décisions que j'avais prises, d'engagements que je prenais pour servir Dieu. Ça, c'est une conviction que Dieu a mise sur mon cœur, qui ne me met pas à tout le monde. C'est correct. Mais du moins, tout le monde devrait avoir ce désir de « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? » Puis de chercher cette volonté-là. Chercher ce qu'il veut pour chacun de vous dans votre vie personnelle. Beaucoup de chrétiens se laissent porter. Se lèvent le matin, lisent le 2-3 versets, leur chapitre. Alors, ferme ça, puis ils vont prendre un café. C'est fini. Mais non, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en pratique avec Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu veux aller rencontrer du monde? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Est-ce que tu veux servir une sœur qui est dans le besoin? Est-ce que tu veux aller aider quelqu'un? Est-ce que... etc., etc. Dans vos milieux de travail, Seigneur, il y a quelqu'un à qui je veux parler du Seigneur. Trouve-moi la... Ouvre la porte, Seigneur. Est-ce qu'on est intentionnel? Dieu est intentionnel avec nous. Est-ce qu'on est intentionnel avec lui? Je parle personnellement, je parle aussi d'Église. Sainte-Marie de Beauce, vous êtes rendu où avec le Seigneur dans votre vie d'Église? Où est-ce que vous allez avec le Seigneur? C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous voulez faire à Sainte-Marie? Est-ce que vous voulez continuer à faire comme ce que vous faites là? Vous voulez, il y a des âmes perdues autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'organise pour leur parler de Dieu? Comment on peut être invitant pour eux? Comment on peut parler du Seigneur à ces gens-là dans un langage qu'ils comprennent, dans la façon qu'ils comprennent? Trouver les solutions, c'est à vous à le faire, ça. À votre image, dans votre contexte. Prenez ça à cœur. La vision en tant que promesse de Dieu nous communique de la foi au milieu des épreuves. Elle nous permet de demeurer ferme malgré elle, malgré les épreuves, parce qu'on a un but. On a un but glorieux avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne nous donne à atteindre pour son royaume toutes sortes de belles choses. Puis dans ce sens, la vision, elle nous communique la force d'avancer, la force de surmonter les difficultés. On dit qu'un chrétien sans vision aura par conséquent et naturellement une vie chrétienne qui va être fade, qui va être neutre, sans combativité. C'est ça le défi qui est devant nous. Pas de vision, pas de combat. Conclusion, vous savez, Dieu désire nous bénir. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. C'est à nous maintenant de saisir ses promesses. Prions. Notre Dieu, nous voulons être attentifs encore une fois à ta parole, à ce que tu nous réserves pour chacun d'entre nous, et particulièrement ce matin peut-être aussi pour cette Église que j'aime, que les frères sont dans leur fidélité depuis tant d'années. Seigneur, merci. Frères et sœurs, Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes à chacun d'entre nous de nous lever le matin avec le désir de te servir, d'être engagé avec toi, d'avoir une vision claire de ce que tu veux pour nous et de te servir avec fidélité, Seigneur. Comme toi, tu le fais envers nous. Tu es fidèle et nous voulons être fidèles, Seigneur. Tu nous aimes, nous voulons aimer aussi. Alors bénis-nous, Seigneur, bénis cette assemblée, bénis chacun des frères et des sœurs qui sont ici. Fais-leur du bien. Au nom de ton Fils. Amen.